Studio Tamani, voici les informations en français.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informations de Studio Tamani sur nos 85 radios partenaires. Assainissement de Bamako, le gouvernement résilie le contrat d'eau zone Mali et confie l'assainissement de la ville de Bamako à la voirie du district, une décision dénoncée par la société marocaine aux zones Mali. À Tombouctou, les acteurs culturels et les autorités s'attellent à faire de la culture un outil de développement économique. La question a été au centre d'une rencontre en marge du festival Vivre Ensemble. À Tominia, la cherté des denrées alimentaires impacte les restaurants. Les gérants et les clients se plaignent de la situation. Voilà pour le sommaire de cette édition qui vous sera présentée par Imran Akilomaïka. Le gouvernement résilie le contrat d'assainissement à d'eau zone Mali. Il a ensuite adopté des résolutions pour rendre Bamako plus propre. L'annonce a été faite mercredi lors d'une réunion de la commission de l'assainissement de Bamako. La société aux zones Mali déplore cette décision et exige le paiement de plus de 15 milliards de francs CFA d'impayés. Le détail avec Ziadata Maïga.
Selon le gouvernement, cette décision de résilier le contrat avec eau zone Mali a été prise pour des raisons d'inefficacité et de souveraineté du pays. Il affirme en outre la réhabilitation et la dotation de la voirie à plus de 780 millions de francs CFA. À ces mesures s'ajoute la construction de deux nouvelles décharges à Noumoubougou et à Montougoula et une décharge de transit à Médine. Colonel Abdoulaye Mega, ministre de l'administration territoriale.
Malheureusement, la collaboration entre la mairie du district et eau zone n'était pas opérationnel. Et on voyait très bien qu'il y avait toujours des points noirs. Et en lieu et place à remettre la voirie du district sur pied, grâce à l'appui de l'État. Et ce qui était attendu à Noumoubougou, c'était d'avoir une décharge finale qui est très moderne, qui allait permettre le traitement, le tri et le traitement des déchets.
Aux zones Mali ne cache pas son mécontentement. Selon les responsables, les impayés que leur doit le gouvernement a ralenti leur travail et certains employés sont à plus de 5 mois sans salaire. Adama Kone, conseiller principal de la direction d'aux zones Mali.
9 milliards ne peuvent pas du tout atteindre la ville de Bamako par an. Il faut aller au-delà de 13 milliards selon nous, nos calculs. Et même après les impayés, aujourd'hui, n'a pas réagi. Pas les devoirs des tribunaux. Aujourd'hui, là, nous, on a plus de 15 milliards d'impayés. Comment vous voulez que ces sociétés puissent travailler? C'est ce qui a fait que les débuts de travail étaient bloqués.
Le gouvernement rassure que les impayés d'eau zone Mali seront acquittés. Il précise également que la construction des nouvelles décharges débutera la semaine prochaine.
Le gouvernement annonce un audit pour citer les responsables sur la disparition de plus de 7 milliards de francs CFA. Cette somme était le budget initial consacré à l'aménagement de la décharge de Noumoubougou. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Faire de l'art et la culture des outils de développement économique des terroirs communaux. C'est l'objectif de l'atelier sur la culture commune qui a démarré ce matin à Tombouctou. Cette rencontre de deux jours regroupe les acteurs culturels et élus de Tombouctou, Sikasso et Mopti, la commune de Ouattala en Mauritanie et l'invité de l'événement. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la 7e édition du festival Vivre Ensemble en cours à Tombouctou. Notre envoyé spécial à Tombouctou, Moussa Malé Sissoko, est sur place.
Cet atelier sur la culture commune ouvre un chantier d'échange sur le rôle de la culture dans le développement local, souligne le directeur du festival Vivre Ensemble. Salaha Maïga ajoute que 4 panels seront animés sur différentes thématiques au cours de cette rencontre d'échange.
Nous nous sommes dit qu'il est important d'aller vers les autres et d'essayer de créer une interconnexion entre villes, partant de Tombouctou, sur comment faire les activités artistiques et culturelles des outils de développement économique de territoires communaux.
Le maire délégué de la ville de Siva affirme que cette activité est d'une importance capitale pour la relance de la culture. Albacha Mahaman rappelle que la crise multidimensionnelle a beaucoup impacté les activités culturelles du pays.
Organiser de telles rencontres pour faire venir d'autres collectivités à Tombouctou ici, pour réfléchir et de voir par quelles voies et moyens nous pouvons relever la culture afin qu'elle puisse être quelque chose pour notre développement, c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, au Mali, nous avons tenté toutes les solutions. Il est important aujourd'hui d'interroger notre culture pour que nous puissions avoir les solutions endogènes afin d'amorcer la crise.
Le préfet adjoint de Tombouctou s'est réjoui de la tenue de cette activité, car, dit-il, la culture fait la promotion des valeurs traditionnelles et du développement. Rappelons que le festival Vivre Ensemble a commencé lundi dernier et se poursuivra jusqu'au dimanche prochain.
À Tominia, les restaurants jouent un rôle important dans l'alimentation de la population. D'une part, les gérants de ces restaurants se plaignent de la cherté des produits de première nécessité. D'autre part, les clients estiment que les plats sont chers. C'est le constat dans ce reportage de notre correspondant Issiaka Koulibaly.
La gestion des restaurants devient difficile selon des gérants. Même s'ils gagnent, ce n'est pas beaucoup. Tout est cher selon eux.
Je gère un restaurant ici. À cause de la vie chère, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Ici, tout est cher. Autrefois, nous payions les litres d'huile entre 800 et 750 francs CFA. Mais actuellement, pour le litre, il faut 1250 francs. L'oignon, la pomme de terre et la farine de blé, tout est excessivement cher.
Des consommateurs estiment que la quantité des plats n'est pas égale au prix. Cela est dû à la conjoncture économique, selon certains.
Ça vaut 5 ans que je viens manger ici. Actuellement, nous avons constaté que le plat de riz a augmenté. Il y a des moments où on ne trouve même pas à manger dans nos restaurants. Les prix ont grimpé. Si les prix de condiments augmentent, le plat consommé devient forcément cher.
Consommateurs et gérants lancent un cri de cœur pour une diminution des prix des produits de première nécessité. Issiaka Koulibaly de Tominian pour Studio Tamani.
Le monde a célébré le 10 décembre dernier le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration stipule que tous les êtres naissent libres et égaux, mais au Mali, l'esclavage par ascendance continue d'exister malgré l'interdiction de la pratique par les lois du pays. C'est dans la région de Kaï que le phénomène persiste, malgré sa dénonciation par les organisations de défense des droits de l'homme et les associations anti-esclavagistes. Le reportage de Mamadou Samaseko.
Fils de l'une des victimes de cette pratique, Lassine Konati est le porte-parole de la cellule de Bamako de l'association Gambana, une organisation anti-esclavagiste. Il soutient que l'éveil des consciences ne conçoit plus ce genre de pratique.
Refuser d'être considéré comme esclave, je ne pense pas que cela soit une raison de mépris ou d'expulsion ou encore d'extrême violence. Ce message, on le fait à l'endroit des chefs de village. Ils ont beau gérer des parents ou des grands-parents, qu'ils sachent que les enfants de ceux-ci, qu'ils prétendent d'être des esclaves, ont aujourd'hui pris conscience de la situation. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de se méfier des propos qualifiant l'esclavage comme faisant partie des us et coutumes. Loin s'en faut.
Des traditionalistes estiment qu'il s'agit plutôt d'abandonner les pratiques malsaines. Selon eux, il faut préserver certaines pratiques ancrées dans nos sociétés. Omar Kouaté, président du réseau des communicateurs traditionnels Récotrad de Kaï.
C'est une pratique coutumière vécue des siècles. Donc on ne peut pas du revers de la main parler tout ça. Mais s'il y a des pratiques inhumaines dégradantes, on peut extraire ces pratiques-là et tout de suite revenir sur des bases saines. Alors, parce que notre société, elle est bâtie sur la reconnaissance des valeurs de l'autre aussi. Parce que nous avons été d'abord une nation avant d'être État. Alors, donc, nous devons cohabiter ensemble. Aujourd'hui, l'esclavage par ascendance et le conflit qui est lié à ça a tendance à disparaître.
La Commission nationale des droits de l'homme mène une lutte sans merci contre l'esclavage par ascendance. Pour la CNDH, le phénomène est une réalité et constitue un facteur de violence entre les communautés. Omar Touré, représentant régional de la CNDH, à Kaï.
Nous savons très bien que la pratique de l'esclavage par ascendance dans la région des Kaï est réelle et se manifeste malheureusement par des violences, des milliers de déplacés internes. Et nous avons cherché à ce qu'il y ait une loi criminalisant la pratique. Et actuellement, pour la relecture du code pénal, je crois que c'est pris en compte.
Le sociologue Fouji Tandjougoura propose aux autorités l'affranchissement symbolique pour arriver à bout du phénomène. Il ajoute que les lois et autres actions judiciaires ne seront pas suffisantes face au phénomène.
Nous disons qu'il faut faire la promotion de l'affranchissement symbolique. On a vu ça dans certains villages à Kaï. Ceux qui sont considérés comme esclaves se réunissent, vont voir ceux qui sont supposés être leurs maîtres pour demander leur affranchissement symbolique. On paie des cadeaux rituels. La communauté maître accepte leur affranchissement et le problème est fini. Souvent, on donne même des enfants en mariage. La deuxième chose, c'est que même si on relit le code, ça ne suffit pas. Il faut sensibiliser en profondeur.
L'esclavage par ascendance est une pratique séculaire dans certaines régions du Mali, reconnaissent des observateurs. Mais ces derniers estime qu'avec l'évolution du monde, tout doit être mis en œuvre pour arrêter le phénomène, faute de quoi il peut engendrer des conflits entre communautés.
Ainsi se referme cette édition qui vous a été présentée par Emirana Kilomega, dont vous avez la possibilité de réécouter toutes ces informations sur notre site web www.studiotamani.org. Merci de l'avoir suivi. créé le 10 février 2000 par l'ordonnance numéro 0012 PRM, le centre pénitentiaire de Bolé accueille précisément les mineurs et les femmes en conflit avec la loi. Aujourd'hui, nous parlerons des bébés de détenus qui grandissent à Bolé, une réalité peu connue du monde extérieur et qui suscite des interrogations. Comment ces prisonniers innocents se retrouvent avec leur mère en prison? Comment évolue-t-il? Autant d'interrogations qui seront répondues dans ce magazine Tous les enfants du Mali, présenté par Mariam Koulibaly.
Nous voilà devant la prison de Bolé. Les portes s'ouvrent. Après le contrôle d'usage, le chef de peloton nous accueille dans la cour des détenus, mais aussi leurs enfants. Le bureau de la directrice est contigu à la crèche qui les accueille. On y compte actuellement 14 garçons et 10 filles. À la question de savoir comment sont-ils arrivés là, Madame Kumba Tangara, directrice de la crèche de Bolé, répond.
Ici à Bolé, soit les femmes nous viennent étant enceintes, soit elles viennent avec des enfants. Mais même là, elles n'accouchent pas au sein du Bolé. Nous avons une infirmerie, mais quand leur travail commence, la responsable de l'équipe de garde fait appel à l'infirmière en question. Et en ce moment, le chef service social sera là également pour les faire évacuer au niveau des centres de référence ou en tout cas vers un centre de santé au dehors pour que la femme accouche là-bas.
La vie de ces enfants en prison se passerait bien, selon la directrice de la crèche. Ils ont des jeux d'éveil, un régime alimentaire bien enrichi. Mais il faut noter que c'est grâce aux bonnes volontés que tout cela est possible, car l'État n'a pas prévu de ligne budgétaire pour ces détenus innocents, signale Madame Tangara.
Mais une fois que les enfants sont à la crèche ici, il y a le balançoire, il y a le toboggan, il y a la manèse, donc les enfants, ils jouent très bien. Le lundi, c'est la soupe aux poissons. Le mardi, c'est le bouillon. Le mercredi, c'est les pâtes alimentaires. Le jeudi, c'est le lait au chocolat avec du pain, soit du gâteau, ce qu'on aurait. Et le vendredi, c'est la soupe aux viandes hachées. Le samedi, c'est le bouillon également. L'ONG en question même qui nous épaulait, qui nous donnait les prix des condiments. L'ONG est partie, ça fait 2 ans, sinon 3 ans même. Tout le monde sait qu'une femme, quand elle est en prison, en situation de détresse, souvent même, il n'y a pas de lait maternel. Quand les femmes sont en prison, la majeure partie de ces femmes-là sont abandonnées par leur époux. Donc, comment elle va surmonter la prison et pouvoir prendre en charge le plan nutritionnel de son enfant?
Les textes qui régissent le centre de détention disent qu'à 3 ans, l'enfant doit être séparé de la maman pour son épanouissement. Si aucun membre de la famille n'est prêt à l'accueillir, il est référé dans un centre d'accueil, poursuit Madame Tangara.
Et là, nous seuls, on ne peut pas faire cela également, amener l'enfant vers un centre d'accueil. Nous partons vers le juge des enfants qui établit une ordonnance de placement. Et avec l'ordonnance de placement, nous nous rendons avec l'enfant, avec le centre d'accueil, et l'enfant sera placé là-bas. Mais une fois ou deux fois par mois, le centre en question amène l'enfant ici au centre pour que l'enfant passe la journée avec sa maman. Donc quand la maman purge sa peine, nous repartons encore vers le juge des enfants qui établit une autre ordonnance de main levée pour que le centre aussi nous rende l'enfant et que nous, à notre tour, nous rendons l'enfant.
Pour avoir vécu dans ce milieu carcéral pendant des mois, cette ex-détenue qu'on va appeler Madjan a une autre version de l'histoire. Elle juge insuffisant ce soutien alimentaire et dénonce le manque de soins sanitaires.
Nourrir un enfant dans la prison, c'est un problème. Pour nous faire entendre, on a fait des semaines à bouder les aliments dédiés aux enfants de la crèche. Les responsables de la prison ont fait comprendre que l'État ne prend pas en charge les frais alimentaires des enfants. Ce que je déplore aussi, c'est la séparation de l'enfant et de la mère. Quand les mamans ainsi que les enfants tombent malades, il n'y a pas de médicaments. Des mamans se partagent une bouteille de sirop. Les femmes enceintes, les mamans souffrent là-bas.
Dans beaucoup de prisons au Mali, il y a des cellules occupées par des femmes et leurs enfants qui ont écopé une peine minimale. Avec la réhabilitation de certaines prisons, des compartiments sont en train d'être aménagés pour préserver la dignité de la femme et la sécurité des enfants. C'est la fin de ce magazine. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.